c'est le préliminaire. Et ce préliminaire, qui est l'élément de lisibilité que l'enfant découvre du fait qu'il s'aperçoit qu'il y a de la parole et de l'énonciation, et que l'énonciation, les parents ne s'entendent pas crier. Les adultes sont des mauvais politiques. Ils ne se rendent pas compte qu'ils parlent ou qu'ils se taisent. Ils ne se rendent pas compte que même un long silence, un silence peut être un discours. Ils parlent, ils s'intéressent à ce qu'ils disent, ils ne s'intéressent pas au fait qu'ils parlent. Et les enfants, ce qui les intéresse, c'est qui parle. Qui commande, mais qui parle. Et cette parade de la parole, qui est impérative, c'est le trauma, c'est génial. Parce que, vous voyez, Lacan répond à la question difficile que Freud se pose dans l'inhibition, symptômes et angoisse. Là où Freud discute la solution de Rank, hein, traumatise par la naissance, l'objection de Freud, c'est de dire, si c'était la naissance qui nous traumatise, on devrait tous névroser de la même manière. Or, ce n'est pas le cas. Donc, Lacan, il le décale, et ce n'est pas, anatomique, vous voyez, on quitte l'imaginaire, c'est très lié à l'imaginaire, cette fonction imaginaire du phallus symbolique, mais c'est lié aux oreilles, c'est lié au fait de dire, et ça crée une dimension. Et le tréunaire, justement, Lacan, il va nous dire, c'est ça, dans la dernière version de l'écriture du tréunaire, c'est le Triskel. Le Triskel, c'est ce que Lacan nous dit dans le séminaire RSI, c'est le tréunaire. C'est le tréunaire pour lire les nœuds. Bon, moi, j'ai montré que, grâce à ça, on pouvait analyser, étudier tout ce qui se noue, tout ce qui s'enchaîne, grâce au fait de lire ce tréunaire dans les dessins. Alors ça, Pascal, je n'ai pas compris ce que vous vouliez faire quand vous m'envoyez un dessin où vous faites trois mouvements nœuds sur trois triskels et puis vous dites ça bloque. Oui. Vous vouliez défaire tout?
Oui.
Alors vous avez qu'à continuer. Ça marche.
Ah bon?
Mais ça bloque parce que c'est sûr que c'est pas facile. Et puis il y en a un paquet. Je ne sais pas combien il y a de nœuds dedans. Moi, les plus gros que j'ai défaits avec ce procédé du triskel, je suis allé jusqu'à 7 ou 8. Là, je ne sais pas combien il y en a. Mais si vous allez faire un petit peu de course à pied, ou vous prenez une douche, et puis je ne sais pas quelle est votre technique, moi ma thérapie, c'est plutôt le bain, l'eau stagnante. Quand j'arrive plus à dessiner, je vais prendre un bain. Picasso, il faisait autre chose. Et hop, on retourne au boulot, et puis on s'aperçoit que ça se défait mieux. Il y a du corps maintenant. Il y a du corps, mais ce n'est pas du corps. C'est le corps narcissique, c'est le corps écrit, c'est ce corps symbolique qui, comme un poumon d'acier, permet de faire fonctionner le corps. Bon. Alors, dans cette histoire de 3 et 4, les identifications, voyez-vous, les identifications, la théorie de l'identification sexuelle, c'est-à-dire des formules d'asexuation, c'est 4 formules, et Lacan, tout de suite, très vite, quelques temps après, il va nous dire. Mais allez, on arrête un peu dans l'étourdi, il dit, bon, on va le dire, on va appeler hétéro ceux qui aiment les femmes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 4 postes, hétéro homme, hétéro femme, hétéro homo homme, homo femme, ben vous voyez bien que ce sont les hétéro hommes et les homo femmes qui aiment les femmes. Et donc vous avez plus que 3 postes, vous avez les hétéros, ils aiment les femmes. Je n'ai pas dit qu'ils aimaient la femme, hein, ils aiment les femmes. Et puis vous avez l'homo masculin. Hein, c'est le côté homme. Ça, c'est le côté homme. C'est le côté hystérique. L'hystérique fait l'homme. Le côté homme des formes de sexuation, c'est le côté hystérique. Mais quand je dis hystérique, vous voyez, je risque de vous faire tomber dans le piège qui est de confondre les identifications sexuées avec les 4 formules du symptôme, les quatre structures freudiennes du symptôme. Ce que tout le monde fait quand ils prétendent nous parler de clinique, ils sont tous là, tous ramènent leurs préjugés, et bien souvent chez les mecs c'est très paranoïaque, c'est quoi? C'est les homosexuels, c'est des pervers. Mais l'homosexualité n'a rien à voir avec les pervers. En plus, comme je l'ai dit la semaine dernière, et comme je suis en train de vous l'expliquer, l'homosexualité c'est un mot impropre. Puisque justement, pourquoi y a-t-il une différence entre le phallus imaginaire, la parade sexuelle, les animaux, l'éthologie, là, ce que le cérulnik, là, l'escro, veut nous faire croire que c'est une grande découverte, là. Comme si on étudiait Pavlov pour mieux connaître le sujet, non mais. le sujet de la science, il est derrière, Pavlov, il est planqué, mais vous voyez bien que le chien, il ne va pas en faire des tartines de son assiette de soupe et de sa sonnette. Il fait un tour, et il est juste un peu névrosé, puis ça s'arrête. Chez les animaux, ça va rarement plus loin. Le séisme névrotique ne va pas beaucoup plus loin. Pourquoi, pour le prématuré que nous sommes, ça s'est développé? Parce que, semble-t-il, on s'est raccroché au poumon d'acier, au langage, à l'image narcissique, ce fait de se glisser dans ce que Lacan appelle l'incorporation, hein, qui n'est pas l'introjection, mais qui est c'est contemporain du trauma et du stade du miroir. C'est l'entrée dans l'appareil, par le trou. La sortie, ce sera par la coupure, la castration. Mais l'entrée, c'est par là. Et vous voyez que tout ça est très confus chez beaucoup de monde. Et Lacan, lui, il s'est bien gardé. Il fait jardin à la française, comme il dit. Mais pour s'y retrouver, il faut aller jusqu'au bout avec lui. C'est-à-dire jusque-là. Bon. Ça veut dire que ce que je vous dis, même, c'est traumatique, puisque ce qui est traumatique, c'est que la solution vienne trop vite. Donc il faut que chacun a besoin de son temps, du temps nécessaire pour ça. Moi, tout ce que je dis, c'est vous pouvez y aller, allez-y. Parce que c'est pas vrai qu'on ne trouve rien, que c'est juste un bizutage, la psychanalyse, une initiation, intégrer les signifiants des vieux pour devenir vieux, blanchir sur le harnais. C'est un mec qui m'avait dit ça en fin des 70, là, dans des lindas, il m'a dit ça, oui, mais mon vieux, il suffit de rendre des services comme ça, d'aller essuyer les poings de tout le monde, et puis après, tu verras, tu vas blanchir sous le harnais, puis tu deviendras un vieux toi aussi. Je suis peut-être pas encore assez vieux. Mais moi, je n'ai jamais pu imaginer une chose pareille. Et je sais bien qu'il y en a qui pensent, il y en a qui, d'une manière cynique, le disent. Moi, je suis scandalisé par ce genre de propos qu'on dit pas en public, mais cette incrédulité, cette forme d'incrédulité. Je veux dire, si c'est pour faire des trucs comme ça, il faut mieux devenir exécutif, il faut mieux devenir cadre. Alors, dans cette histoire de trois postes sexuels, il y en a quatre, ça fait trois. Et pourquoi est-ce que l'homosexualité, c'est mal dit? Parce que c'est justement l'existence de l'homosexualité qui fait que c'est quatre, puis trois, mais que c'est pas deux. Et l'homosexualité, donc, ça devrait s'appeler l'altruisme, je vais pas faire ça, mais ça s'appelle l'altérité. Si on peut parler de homo, c'est parce que le sexe, c'est pas homo du tout. C'est justement radicalement pas homo. Et alors, vous voyez que les grands champions qui nous parlent de clinique, ils sont là dans l'approximation. J'étais en train de vous dire, les hystériques font l'homme. Lacan nous donne une définition précise de l'hystérie. Hein. L'hystérie, c'est un sujet qui ne veut pas se prendre pour une femme. Déjà une chose, si on note bien que l'expression se prendre pour Lacan l'a associée à la folie, donc les hystériques ne sont pas fous, ne sont pas folles. Ce que dit Lacan dans D'un autre à l'autre, et il le reprend dans le petit écrit sur Joyce, hein, Joyce le symptôme, à la fin des autres écrits. Bon. L'hystérique, c'est un sujet qui ne se prend pas pour une femme. Il dit, dans D'un autre à l'autre, il dit que l'obsessionnel, c'est un sujet qui ne se prend pas pour un maître. Donc les obsessionnels ne sont pas fous non plus. Pas obligatoirement, mais ils peuvent l'être. C'est la même chose que cette histoire de pervers et d'homosexuel. Bien sûr qu'il peut y avoir des homosexuels pervers, mais il n'y a aucune nécessité structurale qui impose que le trait, la position du sujet dans le sexe qui fait qu'il s'identifie comme homosexuel, il n'y a aucune raison qu'il se considère comme qu'il soit en même temps, qu'il choisisse qu'il ait une élection perverse. Freud en parle dans l'analyse du petit ange. Vous voyez, à la fin, dans la dernière partie, au début de la dernière partie, lui, il en parle. Il parle de l'homosexualité et du trait qui consiste à rechercher l'organe sur le corps du partenaire, le fétiche donc, et donc le trait pervers. Mais Freud n'a jamais dit que c'était une nécessité que les deux soient liés. Il en parle dans ce texte, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez qu'à lire ce qu'il en dit. Il dit, parce qu'il veut dire quelque chose, mais il n'a jamais établi que le trait, c'est-à-dire le fétichisme, la perversion, c'est le fétichisme, et la mise en scène perverse qui peut être folle si le sujet s'y croit, justement se croit, se prend pour. Ça peut aller jusqu'au pire de l'action, mais n'empêche que la perversion, c'est quand même absolument nécessaire dans la sexualité humaine. C'est même la sexualité humaine, elle est altérité, et puis elle est perverse. Mais dans le champ de l'altérité et de la sexuation, c'est le champ de l'homosexualité et de l'hétérosexualité. Et vous avez donc des hétéros qui aiment les femmes, des homos, parmi lesquels il y a les hystériques, qui font l'homme, et ils ne sont pas obligatoirement pervers, et les deux, c'est là que les choses sont confuses, c'est que les deux modes d'entrée dans l'homosexualité masculine, c'est l'amour de la mère qui, au moment de la découverte de la castration, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est la découverte de la castration qui provoque cette identification du sujet à la mère qui devient pédophile. Et là aussi, s'il n'est pas fou, la pédophilie, c'est extrêmement répandu. À mon avis, on ne peut pas avoir des enfants, élever des enfants, et s'intéresser au monde, et puis être éducateur sans être pédophile. Mais pas fou. On n'est pas obligé de s'y croire, on n'est pas obligé de se prendre pour. Bon. C'est ça le problème dont on ne traite pas la psychanalyse. C'est cette question des entretiens préliminaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? La psychanalyse, ce n'est pas une morale, contrairement à ce qu'on nous fait tout le temps. Une incantation morale. La psychanalyse, elle ne dit pas comment il faut faire, elle dit il n'y a pas de bonne manière de faire. Démerdez-vous. Mais par contre, il y a des choses nécessaires à dire, à rappeler, comme par exemple que la parole existe. Que le sexe, justement, ce qu'il caractérise, c'est ce qu'on appelle improprement l'homosexualité, c'est-à-dire c'est l'altérité. C'est qu'il y a de l'hétérose. Bon. Et alors, vous voyez que l'autre mode d'entrée dans l'homosexualité masculine, c'est par la haine du père ou du frère aîné. C'est ce que Freud commence à développer en 1916 dans la conférence 26 de l'introduction à la psychanalyse. C'est ce magnifique chapitre 26 où il parle de narcissisme et de libido. Et là, il commence à raconter un cas justement d'un garçon qui a développé ce type d'homosexualité qui s'appelle la carrière politique, qui s'appelle l'abnégation, le dévouement pour les autres. Et ça, on n'en parle pas, vous prenez dans les milieux analytiques, parce qu'on n'en parle pas non plus dans le monde politique, parce que vous pouvez mettre tous les quotas que vous voulez, les dames, elles ne sont pas bienvenues, parce qu'elles sont beaucoup plus souvent... Alors, ce n'est pas un trait spécifiquement féminin, l'hystérie, ne pas vouloir se prendre pour une femme, mais c'est vrai que c'est plus fréquent chez les femmes, parce qu'elles sont poussées un peu à devenir hystériques, puisque... Si les dames, on les prend pour des femmes et qu'elles veulent, elles se prennent pas pour une femme, elles ont tendance à plus facilement être hystériques. Bon. Mais vous voyez que pour être homo, à la manière de la haine du père ou du frère aîné, c'est-à-dire pour aimer tous les hommes, hein, pour pas être une folle là, identifiée à la mère ou pédophile qui aime les petits enfants, ce type d'homosexuel, notre société, elle repose là-dessus. Alors vous voyez qu'on ne peut pas en parler. Vous voyez, moi je suis venu me réfugier ici au fond d'une salle dans l'Institut Théologie Catholique parce qu'on suppose qu'ici on parle de choses pires que ce que je raconte, donc je suis un peu à l'abri, mais vous voyez bien que c'est très difficile, que ces choses-là personne ne veut en parler. Et alors nos grands cliniciens viennent nous donner des leçons, ils viennent nous dire la topologie. Vous avez raté la rampe, vous avez lâché la rampe depuis longtemps. Nous, on travaille tous les jours. Voilà. Les types, ils doivent nous faire croire que la psychanalyse, c'est les travailleurs sociaux. Ils vont tous les jours à la mine. Ils mettent un casque, ils descendent, ils vont. Non, mais qui se moque-t-on? Moi, je pense que c'est se moquer des gens, et en plus, c'est prétendre avoir des vues surplomber les autres. C'est un scandale, enfin, je veux dire. On n'est pas là pour dire. Ni qui est qui, ni comment il faut faire. Regardez cette phrase de Freud, admirable, c'est toujours la même. Mais quand la dame lui demande, mes docteurs, vous qui avez étudié, c'est un peu la même phrase que Einstein aussi qui lui dit ça dans sa lettre, vous qui avez étudié la psychologie humaine, pourquoi la guerre, dit Einstein. La dame, elle lui dit, comment faire pour bien élever ses enfants? Quelle est la réponse de Freud? C'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Lié au détachement, au caractère tragique de l'analyse. Il lui dit, mais madame, ne vous en faites pas, madame. De toute façon, ce serait une catastrophe. C'est la seule réponse sensé. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous voyez, il y a même des psychotiques rares et durs comme du fer qui ont inventé l'école des parents. Je ne sais pas si vous connaissez, ça existe, il y a une association, ils ont même un site internet, l'école des parents. S'il fallait aller à l'école pour être parent, vous voyez, moi je dis qu'il faut être pédophile, on est mal barré. Mais non, il ne faut pas être pédophile fou. On a vu ce que ça existe. Et la justice, elle nage total, parce que les psychanalystes sont déjà en train de nager comme ça dans ces histoires de phobie, de pédophilie, d'homosexualité. Alors les pouvoirs publics, les juges, vous avez vu, ça s'appelle trou, du trou, d'outrou, d'outrou. Enfin, il y a plein de trous. Bon, ça, on se croit rêver, non?
Trou,
ouais, il y en a plein. Ben, c'est le problème de l'image narcissique. L'image narcissique, elle marche parce qu'il y a des éléments en trop. C'est l'incorporation avec les incorporels, la partie du corps propre qui renvoie à l'image narcissique, et puis il y a les éléments en pointe. Hein, Lacan, il les appelle éléments en pointe dans Subversion du sujet. Il met même des guillemets autour de en pointe. Les trop et les trous, on en parle très très mal. Alors il serait question, justement, qu'avec cette topologie, on commence à se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une coupure, qu'est-ce que c'est qu'un trou, qu'est-ce que c'est qu'un trop, qu'est-ce que c'est qu'un tout, qu'est-ce que c'est qu'un pas tout, on en est loin. On en est encore loin. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un tout? C'est parce qu'il n'y en a pas de tout. Hein, dans l'autre, le grand autre, le lieu de la parole, le lieu du signifiant, le phallus, il est tombé du bateau. Le signifiant qui serait tout, c'est un ensemble, la théorie des ensembles, mais l'ensemble lui-même n'y est pas. C'est pour ça que l'autre, il est barré. Le phallus, il est tombé du bateau. Il est tombé. Lacan le dit dans le séminaire 6 en disant il est tombé, on ne trouve pas, on trouve un signifiant du manque de ce signifiant. C'est ça qu'il appelle S de Havard. Et ça, il l'associe au vide, à l'ensemble vide de la théorie des ensembles, dans Subversion. Bon, tout ça, c'est pour mettre en place des éléments qui vont nous permettre de situer cette fonction père, absolument inconsciente. Et qui n'a rien à voir avec ni l'autre, ni le phallus, c'est pas l'homme. Qu'est-ce que c'est cette fonction banale et exceptionnelle qu'on trouve dans le miroir. On ne peut pas dire qu'est-ce qui est inversé dans l'image symétrique. Une dimension est inversée, mais on ne sait pas laquelle. C'est comme dans le nœud borroméen. Un rond tient les deux autres, mais c'est vrai des trois. On ne sait pas lequel. Il n'y a pas de tout. Il y a quelque chose, il y a un trou, il y a un signifiant de ce manque. C'est ça qu'on va traiter avec le nœud et le triskel. On va faire tourner la théorie des deux autour de ces trous. Mais le tout, il n'y en a pas. L'autre, il est radicalement castré, et c'est la castration de l'autre qui représente le complexe de castration. Le sujet ne peut pas regarder ça en face. C'est comme la mort, c'est pour ça que les obsessionnels, ils délirent sur la mort à plein tuyau. C'est beaucoup plus conscient, la mort du sujet lui-même, parce qu'on peut le dire, on peut l'écrire, c'est pas impossible à écrire, d'écrire si je suis mort, je pense plus. Penser et mourir, c'est hétérogène, c'est contradictoire. Si je pense encore un peu ma mort, c'est que je suis pas vraiment mort. Si je suis vraiment mort, je peux pas penser ma mort. Donc, alors je m'occupe de la mort des autres. Je vous en permets. Tandis que la découverte de Freud, qui est un cran de plus à propos de l'hystérie, c'est quand même s'intéresser au sexe de l'autre. Alors là, moi, je suis déjà assez proche de l'inconscient, parce que moi, il y a des moments où j'ai cru qu'on pourrait formuler ça dans une phrase, c'est-à-dire que ça pourrait s'approcher de la conscience, mais je crois que c'est très difficile de formuler. Comment Freud fait-il pour découvrir effectivement que ces hystériques qui s'intéressent au sexe de l'autre, à ce qui se passe dans l'autre, l'intrigue hystérique, essayer de manipuler les autres comme des petites marionnettes, comme ça, c'est parce que le sexe de l'autre, on sait aussi d'après Freud pourquoi elles savent pas, certains, parce que ils n'ont pas joui au moment où ils ont été séduits, ils auraient dû, puis c'est resté. Ça leur a coupé la chic. Et alors ensuite, ils disent, tiens, j'ai raté l'occasion, j'aimerais bien regarder un peu. Comment ça se passe? Ce qui se passe là quand il y a de l'excitation. Eh bien, mais ça, c'est pas une explication, ça c'est très phénoménologique, parce que le fait de pourquoi est-ce que le sexe de l'autre, là, cette altérité qui finit qu'on parle d'homosexualité pour dire le contraire, pour dire qu'il y a de l'autre, Pourquoi est-ce qu'on est réduit à ça? On est réduit à cette dialectique, à cette espèce de grand chambardement, à cette involution signifiante, à ces retournements qui font que ça tourne autour de quelque chose qui est trou et coupure. Moi, je ne sais pas. Je ne pourrais pas expliquer à quelqu'un, je ne chercherai pas à convaincre quelqu'un que, qu'on ne peut pas dire le sexe de l'autre, puisque je ne sais pas comment c'est possible même que ça pose un problème. Mais c'est un fait que ça pose un problème. L'autre sexe, ben, vous voyez, c'est une des premières lectures qu'on peut faire des formules de sexuation. Si on ne les lit pas bien, si on les lit classiquement, ben les deux côtés, hommes et femmes, c'est le même. Donc ça dit bien qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité. Il n'y a qu'un seul sexe, comme dit Freud, il n'y a qu'une libido. Et lui, Freud, il dit, la libido, cette libido, elle est masculine. Lacan, quand il répète Freud là-dessus, dans Signification du phallus, je vous ai déjà fait remarquer ça, peut-être, il dit exactement le contraire, il dit elle est féminine. Vous voyez, Lacan, il dit, pour dire, il dit à la fin de Signification du phallus, il écrit que même la parade masculine, machiste, à un côté, à un aspect féminin. Il est en train de dire exactement le contraire. Il dit, à ce moment-là, il continue la phrase en disant, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette question, là, jamais élucidée chez Freud, qu'il n'y aurait qu'une seule libido et qu'elle est masculine. Et vous remarquerez que s'il dit que la parade masculine est féminine, c'est qu'il est en train de dire que justement, il n'y a qu'une libido, mais elle est féminine. Vous pouvez le dire aussi, d'ailleurs, parce que ça ne fait que tourner tout ça, ça tourne sur soi. Et c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, de s'intéresser aux surfaces unilatères et bilatères, aux surfaces orientables et non orientables. Dans ces dessins de nœuds, elles ont une fonction, ces surfaces. Il y a de la différence et puis ça tourne constamment sur soi. Et si vous rentrez dans cette machine infernale, c'est une expression de Cocteau, bon, j'ai un goût spécial pour Cocteau, mais c'est vraiment une machine infernale, personne n'y veut rentrer dans cette machine infernale. Même les masochistes, dit Lacan, ils n'y rentrent pas. Ils s'arrêtent à entrer, ils se donnent des petits coups de fouet, comme ça. Est-ce qu'il les a, parce qu'ils ne se rendent pas compte d'eux aussi, ils ne disent pas bien, ils font des symptômes. Lacan nous dit que ce qui intéresse le masochiste, c'est la balafre, le coup de fouet, la rayure rouge sur la peau, c'est le préunaire. C'est la question qui se pose, les masochistes, et comme tout le monde, c'est qu'est-ce que c'est que lire? Comment lire? Tout l'ensemble du freudisme est construit sur cette question. Le corps écrit, on ne sait pas pourquoi. Le désir tombe sur le corps, ça pousse à écrire, et ça s'écrit comment? Comme la lumière tombe sur un prisme, ça fait un arc-en-ciel. Ça décompose la lumière. Le désir est décomposé entre quoi et quoi? Entre la névrose à une extrémité, l'infrarouge, et l'ultraviolet, pour vous dire le contraire d'ailleurs, c'est la perversion. Puis au milieu, vous avez la magnifique découverte de Winnicott, l'objet transitionnel. C'est-à-dire une écriture, un môme, les mômes. Ils écrivent. Ils disent à la mère, voilà, regarde, je l'écris comme ça. C'est un trait unaire. Et l'objet transitionnel, c'est en quoi ça devient une lettre? Ça va devenir l'objet A. C'est pas un fétiche, c'est pas un objet de phobie. Les fétiches et les objets de phobie, c'est des objets transitionnels ratés. Le môme, il arrive à écrire et il dit, voilà, je suis un tragédien. Tu peux aller te faire voir avec ton angoisse, ton désir insatisfait. Parle à leur mère, et le môme dit, bon ben voilà, avec ça, je suis comme Oedipe à Colonne. Hein. Quand mon fils viendra me demander d'être dans son camp, je lui dirai, écoute mon Dieu, va suivre ton destin, fais comme moi, va te crever les yeux, tu vas te faire tuer à Thèbes, ben, tu vas devenir la charme, tu seras le héros de Antigone, tu seras le héros de la troisième tragédie après. C'est tragique, voilà. La psychanalyse, c'est effectivement tragique. Et comme on est dans un monde absolument pas tragique, il n'y a aucune idée qui ne s'amuse que de comédie, ou qui souffre que de comédie, et ce que je trouve un peu raide, c'est que les analystes, c'est pas peut-être le culot, mais au moins le courage de le manifester, quand on n'en serait pas dans cette situation péténiste, là, minable de bourgeois. Alors je ne vais pas faire le psychotique en forcluant en disant le péténisme c'est bon pour les gens de Lyon, parce que moi je suis à Paris, non, moi je suis à Buenos Aires, alors vous voyez, je suis plus snob que tout le monde, je suis plus psychotique que les autres. Bon, non, mais le psychotique, c'est le type, vous voyez, qui dit Tout doit être écrit. Service compris sur le billet. C'est plus laissé à l'appréciation de la clientèle. Ça, c'est comme ça en Europe. À Buenos Aires, on donne encore un pourboire au taxi et aux garçons de café. Ici, c'est écrit sur le ticket. Service inclus. Surtout que les Américains ont peur qu'on leur prenne trop d'argent. Là. Il faut que tout soit bien, soi-disant, pour les autres, pour les Américains, pour les touristes. Mais c'est en fin de compte, tout le monde... Dans cette absence de lecture, on ne sait plus lire. Il faut, vous voyez, l'homosexuel, justement, ce qu'on lui reproche, c'est pas écrit sur son front, homosexuel, là. Le sexe, justement, l'altérité, c'est pas écrit sur le corps. Ah, c'est pas les traces sur la mure, les organes génitaux. Alors, on ne sait pas les reconnaître. Alors, voilà, c'est comme les Juifs. Oh là là, qui c'est cela? On ne sait pas les reconnaître. C'est pas écrit dessus. Et du coup, il faut les passer au four. Il faut les faire disparaître. Juifs, homosexuels, il ne faudrait pas les pousser à faire de la compétition entre eux, justement, les juifs et les homosexuels, parce que actuellement, les homosexuels, ils se portent mieux, mais vous avez remarqué, dès qu'ils ont un peu de droit, hop, ils se précipitent dans le fait de vouloir faire papa-maman. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils veulent faire papa-maman. C'est vraiment salaud pour les femmes, parce que moi, je crois qu'une femme, c'est pas une mère. La femme n'existe pas, c'est une bonne nouvelle, quand même. C'est pas une mère, c'est pas nécessairement une mère. Alors, donc, les femmes, là, moi, j'aime les femmes, je suis hétéro. J'adore les femmes. Et c'est un problème. C'est pas la vie facile. Bah oui, je veux être la seule. Hein? Bon, ben, il faut en tenir compte, quoi. Ça existe, quand même, le fait d'être. Le fait de la solitude existe et donc il ne faut pas quand même imposer aux autres des choses trop difficiles. Mais ce n'est pas de la paranoïa, la jalousie. C'est pas de la paranoïa, c'est pas de la jalousie projetée. C'est... Lacan, il a une phrase magnifique dans les tournées. Il dit « Un homme ne peut rien faire de plus pour une femme que de lui rendre sa solitude partenaire. » Et c'est pour ça qu'elle veut être la seule, comme on le sait que trop. Alors Solaire, lui, dit ce... du paranoïa féminine. Non, mais parce qu'il est très malin, lui aussi, c'est un grand clinicien, il a tout compris. Bon. Donc c'est quand même extraordinaire. Quel monde de goût. Et pourquoi alors je vous parle de la rupture de semblant? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond ce schéma? C'est un truc qui marche tout le temps. Ce schéma, tenez, c'est même amusant. Si vous lisez la théorie de l'enfermement, l'histoire de l'enfermement racontée par Foucault dans l'histoire de la folie à l'âge classique, sa thèse, vous verrez qu'il y a des annexes. Et dans une des annexes, il y a une note sur les aliénistes classiques. Et dans les aliénistes classiques, c'est quand même marrant de retrouver ça chez Lacan, quand même. Ils avaient l'idée que c'était il y avait la rupture de semblant, c'était un événement, n'est-ce pas, qui produisait la manie, c'est le cycle maniaco-dépressif. La manie, ça ruisselle, ça ravine. Vous savez, ces gens que vous voyez avec plein de paquets, qui ont même des caddies entiers remplis de trucs, ils vont faire des courses. Et puis ensuite, dépression. Le cycle maniaco-dépressif, c'est ça, c'est... Un événement se produit, rupture de semblant, c'est de la manie. C'est de la manie. Alors, il y en a pour qui ça ne s'arrête jamais. Moi, j'en connais même dans l'analyse. On leur a conseillé, on leur dit, écrivez un livre de temps en temps, ça vous évitera de parler comme ça sans perdre de vue. Et un mois après, ou un an après, le type, ou la femme à qui on a dit ça, il vient, il en a fait 5 livres. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas facile de faire de bien compter tous les éléments sans en rater un pour recomposer du signifiant. Le ravissement. Et là, je reprends le ravissement chez Lolbechstein, chez Duras, hein, c'est le ravissement de Lolbechstein. Vous voyez, le ravissement de Lolbechstein, c'est une clinique du ravissement sans ruissellement. Je vous fais simplement remarquer pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que vous constaterez en lisant le roman, en le relisant, vous verrez qu'effectivement, LOL, elle ne veut pas qu'il y ait du ruissellement. Elle ne veut pas qu'il y ait des cris. On lui rapte son fiancé, c'est un événement. Vous voyez, ce cycle, vous avez la clinique qui peut être une clinique du ruissellement, une clinique du ravinement, une clinique du ravissement. Ça peut se fixer, c'est ça. Là, il y a de la fixation. Ça se fixe là ou là. Et LOL, c'est fixé dans le ravissement. On lui pique son fiancé, rupture de semblant, ben elle va directement au ravissement. Elle fait l'impasse sur le ruissellement et le ravissement. Et quand sa mère, le matin, arrive en gueulant, elle se précipite sur la porte pour bloquer la porte, empêcher que la mère rentre, parce que la mère, elle est en train de crier. La mère, elle, ça lui a fait, le fait d'apprendre que sa fille, elle a son fiancé qui a été rapté là, par Anne-Marie Streiter, hein, cette femme avec son nom de Venise, dans l'œuvre de Duras. Vous voyez qu'elle est. La mère, elle a appris que sa fille, il s'est passé quelque chose, elle a passé tout. Elle était ravie toute la nuit, elle a tenu la main de Tatiana. Eh bien.